François Molins, bonjour.
M'entendez ? Oui.
Ah ben je pense qu'on est, voilà, tout, si tout le monde entend bien, on va pouvoir, nous allons pouvoir commencer. Voilà pour ce temps que nous allons passer ensemble, juste avant le moment que vous pourrez passer ensuite pour les dédicaces et les échanges plus directs avec votre public venu nombreux aujourd'hui. Bienvenue donc à la librairie Les Volcans, François Molins, pour votre ouvrage Au nom du peuple français, publié chez Flammarion. Comme vous le disiez, en quelques jours, vous avez traversé deux ou trois ou quatre fois la France en train. Hein. C'est un très très grand succès d'édition. Et à chaque fois, notamment récemment encore, pas très loin d'ici, il y a quelques encablures à Lyon au festival du Polar, avec toujours beaucoup de monde. Heureux de vous rencontrer, de vous lire et de pouvoir échanger avec vous sur ces mémoires. Alors d'abord, avant d'entrer directement dans le sujet, une question. Donc vous écrivez vos mémoires au pluriel. La jeunesse de ce livre, est-ce que lors de votre très longue carrière de magistrat, à un moment donné, vous vous êtes dit, comme ça peut arriver dans les carrières de la magistrature ou de la police, par exemple, un jour il faudra que je l'écrive, ou un jour il faudra que j'écrive mes mémoires. Est-ce que vous avez, à partir d'un certain moment, pris des petites notes en disant, bon, ça servira un jour et je l'écrirai, ou alors c'est le moment de la retraite venue que vous vous êtes dit, ou on vous a peut-être suggéré aussi la chose, non, vous avez une sorte d'obligation, c'est d'écrire ce que vous avez vu et ce à quoi vous avez pu contribuer.
Ni l'un ni l'autre. Non, c'est une troisième explication. Non, effectivement, moi, je n'ai jamais eu de projet d'écriture tout au long de ma carrière. Je ne me suis jamais dit un jour j'écrirai. Et du coup, je n'ai jamais vraiment pris de notes le soir quand je rentrais chez moi, en consignant ce que je faisais ou ce que je pensais dans des carnets. Je n'ai jamais fait ça. Ça m'est venu en réalité après les attentats de 2015, où le fait d'être projeté comme ça sous la lumière des médias a fait que j'ai été destinataire de tout un tas de propositions. Je crois que je pense que j'ai eu des propositions de quasiment toutes les maisons d'édition. Et effectivement, à ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi pas? Au début, je répondais pas, je disais non, et puis en réfléchissant, j'ai pensé que ça pouvait être intéressant, et finalement j'ai accepté donc le principe de l'écriture chez Flammarion, qui me plaisait parce que c'était le groupe Gallimard et puis que ça m'assurait à la fois quelque chose à la fois de sérieux et de libre, hein, en termes d'écriture. Et j'ai écrit en réalité à une condition, c'est que ils n'acceptent de signer un contrat que si l'ouvrage était publié au moment de ma retraite, c'est-à-dire 4 ans plus tard. Ce qui était quand même un petit risque pour eux aussi. Et donc, en réalité, c'est 4 ans de travail et d'écriture. Et c'est aussi pour ça que je l'ai fait avec la collaboration d'une journaliste, Chloé Triomphe, qui était à la rubrique Police-Justice d'Europe 1. Parce que sur les 18 premiers mois, c'est surtout des entretiens, parce qu'il a fallu tirer les fils de la mémoire. Comme justement, j'avais rien gardé et rien consigné. Voilà. Alors, c'est des mémoires et c'est pas des mémoires, parce que c'est pas moi qui ai trouvé le titre de mémoire. Moi, mon titre, c'est Au nom du peuple français. Puis je vais vous dire pourquoi il s'appelle comme ça.
Oui, parce que voilà, c'est la fonction du procureur.
Le mémoire, si c'était des mémoires, il serait très sélectif, puisqu'effectivement, quand on est magistrat, on est tenu au secret. Et le jour où on cesse d'exercer ses fonctions, on continue à être tenu au secret. Je ne suis plus tenu à l'obligation de réserve, mais je continue à être tenu au secret. Et il y a des secrets d'affaires ou des secrets de personnes que j'ai connus dans ma vie que je n'ai pas le droit de divulguer. Ça, c'est comme ça. Alors, je l'ai écrit pour deux raisons essentielles. La première, c'est que je pense que la justice est souvent très mal comprise de la part de nos concitoyens. Donc c'est un souci d'expliquer comment elle fonctionne au travers de mon expérience, et aussi d'expliquer qu'est-ce que c'est que le métier de procureur de la République. Hein, parce que ça, c'est vraiment le fil rouge du livre, de la quasi-totalité du livre, sauf le dernier chapitre. Et la deuxième raison, et c'est ce qui explique le titre, c'est cette une volonté de rendre compte de ce que j'ai fait. Alors pourquoi rendre compte? Ben parce que la justice est rendue au nom du peuple français, d'où le titre. Comme j'ai participé pendant 46 ans, j'ai estimé que c'était bien aussi d'avoir cette dimension, rendre compte effectivement de ce que j'avais fait au cours de, c'est pas un mandat, mais au cours des fonctions qui m'a été donné d'exercer tout au long de ces années.
Et vous avez pu aborder directement, ou plutôt indirectement le sujet, mais c'est vrai qu'il y a, je le sais, quelques étudiants en droit dans la salle. Je pense que tous les étudiants qui font au moins du droit pénal ou de la procédure pénale devraient se lire et se nourrir de votre livre, parce que vous mettez un soin absolument méticuleux, avec beaucoup de précision, systématiquement, pour décrire, d'abord pour les titres, la titulature, les titres en fait, sont toujours retranscrits de manière extrêmement précise. Les organisations de services, les noms des services, le périmètre de compétence des services, au-delà, je dirais, du propos que vous expliquez, que vous présentez, il y a aussi une présentation extrêmement synthétique et très pédagogique, pour le coup, de l'organisation pénale française depuis, effectivement, presque une cinquantaine d'années. Ça a été un choix de votre part aussi, cette précision.
Oui, mais c'est la même exigence que celle de la pédagogie. Ça renvoie à cette volonté de faire quelque chose qui soit, j'allais dire, clair et lisible pour tous. Et c'est vrai que ce livre, on n'a pas besoin d'avoir fait du droit pour le lire et le comprendre.
Oui, je pense. Tout à fait.
En tout cas, il a été écrit pour ça.
Tout à fait accessible, effectivement. Donc, on va le prendre comme il vient, c'est-à-dire de manière chronologique. C'est encore le plus simple. Voilà, avec vos premiers pas de jeune juriste, jeune magistrat, très jeune à l'époque. Après, donc, 3 ans de droit, et puis l'ENM. Et vous venez au droit, et même à la magistrature, sans vocation particulière. Vous, ce que vous appréciez, c'est le droit, mais vous n'avez pas une vocation, vous ne vous donnez pas pour désir, pour volonté de défendre quelque chose de particulier.
C'est des orientations, comme on en fait parfois dans le milieu scolaire, presque par défaut. Comme je n'étais pas bon en sciences, je suis allé en lettres, donc j'ai fait un bac littéraire. C'est pour ça que je dis par défaut, entre guillemets, hein, même si j'aimais bien ça. Après mon bac, eh ben, il fallait faire quelque chose. J'ai pas de vocation, hein, encore à l'époque. Et lettres, j'avais pas envie. Droit, c'était bien parce que j'avais une bonne image du droit. Et puis le droit, ça ouvre des tas de portes. Donc c'est aussi une façon de reculer un choix. Hein. Donc je suis allé en droit, puis je me suis rendu compte que j'adorais ça. Et petit à petit, donc, j'ai réfléchi à ce que je voulais faire après. Et là aussi, il y a des choses que j'ai écartées. J'essaie de l'expliquer dans le livre. J'aurais pu être avocat. J'ai beaucoup de respect pour les avocats, hein, c'est pas la question. Mais j'ai pas voulu l'être parce que je pense que j'aurais mal vécu le rapport avec le client. C'est pas tout à fait le rapport à la même vérité que quand on est magistrat. Et puis, je me voyais pas fixer ma plaque dans une ville au pied d'un immeuble. Moi, j'avais envie de mobilité, j'avais envie de bouger. Il y avait aussi un côté aventure dans la fonction, puisqu'effectivement, puis la mobilité, c'est un facteur d'enrichissement. Ouais. Et donc, effectivement, j'ai choisi de devenir magistrat. Si je l'avais pas été, si je n'avais pas raté le concours, je pense que j'aurais continué, j'aurais essayé d'être prof d'université. Ouais. Tellement le droit et l'enseignement me plaisaient. Puis bon, je l'ai eu et j'ai choisi en réalité le pénal à l'époque n'était pas du tout ma matière préférée. Hein. Ça vous étonnera peut-être, mais moi j'étais d'abord civiliste et commercialiste. Hein. C'était ça mes matières de prédilection. Et je suis venu au parquet après parce que...
C'est un choix particulier de venir vers le parquet, oui. Plutôt qui était
bon, le juge, pour ceux qui ne connaissent pas l'organisation judiciaire, c'est ouais. Celui qui est totalement et absolument indépendant et qui va rendre des décisions pour statuer sur les litiges dont il est saisi ou les poursuites que lui soumet le parquet, hein, pour être synthétique et réducteur. Le parquetier, c'est le représentant de l'intérêt général, le représentant de la loi qui représente la société. Donc il va diriger l'activité des services de police et de gendarmerie, conduire des enquêtes, statuer sur l'orientation à donner à ces enquêtes, s'il poursuit à l'audience, s'il demande des peines, si la condamnation est prononcée, il va faire exécuter la peine. Et puis il exécute aussi, il met en œuvre la politique pénale qui a été décidée par le gouvernement. Donc il n'est pas indépendant comme un juge, il l'est moins, il l'est quand même un peu, au moins dans la conduite des affaires individuelles, et même beaucoup dans cette conduite-là. Mais cette fonction me plaisait parce que c'était dynamique. Et ça représentait pour moi la possibilité, effectivement, alors peut-être c'était une illusion, mais ça le lecteur jugera, l'illusion aussi que en travaillant comme ça dans le cadre d'un parquet, en menant des politiques pénales, en travaillant avec des policiers, des gendarmes, des préfets, on pouvait espérer faire reculer la criminalité et améliorer le cours des choses et la vie en société. Voilà.
Et on le voit souvent, justement, dans votre livre, très régulièrement, lorsque vous... Alors, il y a cette notion de mobilité, tout le temps, vous bougez tout le temps, vous êtes toujours en hélicoptère, en voiture, en avion, vous avez utilisé tous les moyens de transport pendant votre carrière, mais aussi cette notion qui n'est pas celle du juge d'instruction, qui pourrait être pensée souvent seul dans son bureau avec son greffier, vous travaillez en équipe, oui. Vous animez des équipes. Toute votre vie, vous avez animé des équipes jusqu'au dernier poste le plus ultime, celui de la Cour de cassation, où vous aviez 57 ou 58 procureurs généraux, mais là aussi, c'était plus compliqué, ils avaient leur autonomie, mais là aussi, vous arrivez à faire équipe, et c'est quelque chose systématiquement qui donne de l'intérêt pour vous à la fonction, à la mission.
Effectivement, le parquet, c'est une équipe. Bon, il y a un chef qui a une autorité hiérarchique sur les autres, hein, c'est le procureur, ou le procureur général dans un parquet général, mais c'est avant tout une équipe dans laquelle on n'est rien les uns sans les autres. Un procureur ne peut rien faire tout seul. Comme en général, le chef ne peut rien faire tout seul, le chef, il a besoin des autres. Mais le procureur, il a aussi besoin des autres, il a besoin des magistrats de son équipe, il a besoin des greffiers. Et ça, c'est effectivement un fonctionnement qui est très intéressant, parce que c'est un fonctionnement collectif, et qui est intéressant parce qu'il peut aussi devenir collégial, puisqu'on se rend compte que dans le fonctionnement du parquet, quand on a une affaire qui est difficile, eh ben, le premier réflexe, c'est de se tourner vers les collègues et essayer d'aborder ensemble les difficultés pour mieux les résoudre. Voilà. Aujourd'hui, il y a peut-être... il y a beaucoup moins de collégialité au niveau des juges, parce qu'il y a tellement d'affaires qu'il y a de plus en plus de juges uniques et les magistrats statuent souvent tout seuls. Au niveau du parquet, on a conservé cette philosophie et cette approche du collectif et de la collégialité.
Il y a une deuxième notion aussi, c'est, enfin, pour les procureurs, c'est d'être là quand une affaire arrive, lorsqu'elle peut être une affaire dramatique, criminelle par exemple, vous êtes là au début, au commencement, au moment où il faut prendre les décisions, et puis à la fin, c'est-à-dire quand il faut requérir ensuite, ce qui n'est pas le cas de l'avocat qui vient après par définition, des magistrats instructeurs qui viennent après par définition, d'autres équipes d'enquête qui viennent après, le procureur est là dès le départ avec les premiers, jusque dans l'enceinte du tribunal.
Ça c'est particulièrement vrai pour les affaires criminelles, hein. Quand il y a un crime qui a été commis, ben, le policier ou le gendarme, qu'est-ce qu'il fait ? Tout de suite, il va appeler le parquet, et c'est le parquet qui va désigner le service de police ou de gendarmerie qui va faire l'enquête. Donc le parquet, il est effectivement là à la base. Il va en général après aller sur la scène du crime, hein,
concrètement, quand les policiers, il y va.
Oui, oui, tout à fait. Et puis effectivement, il sera là aussi au bout de la chaîne. Si la cour d'assises a condamné, ben, il sera là aussi dans le processus d'exécution de la peine qui a été prononcée. Donc on couvre effectivement la totalité du champ pénal.
L'ensemble, voilà. Et justement, ça vous amène à travailler ou avoir un regard peut-être un peu différent sur l'affaire quand elle arrive au moment du jugement, parce que vous êtes le seul presque à avoir la connaissance totale, la supervision totale de l'affaire. Ça vous donne pas quelque chose de plus que l'avocat ou que le magistrat qui préside ou que le...
Alors bon, il y a des avocats aussi qui connaissent l'affaire depuis le début, hein, qui ont assisté, qui ont commencé à intervenir dès le début de la garde à vue du client. Je dirais oui et non, parce que je pense que c'est, dans les dossiers compliqués, c'est incontestablement un avantage d'avoir connu l'affaire depuis le début. Je pense notamment aux attentats terroristes. Les collègues qui sont montés à la cour d'assises spéciale pour juger les accusés dans vendredi 13, ils étaient là le soir des scènes de crime du 13 novembre. Donc ce dossier, ils le connaissaient parfaitement. Mais des fois, ça peut aussi être pas mal d'avoir un œil nouveau, que ce soit pas forcément celui qui était là au début, parce que l'œil nouveau aussi, c'est l'assurance d'une forme de remise en cause. Vous pouvez aussi avoir des dossiers dans lesquels toutes les portes ne sont pas fermées, qui posent plein de questions. Et dans ce type de dossier, parfois, un œil nouveau et objectif, ça peut éviter de se fourvoyer dans des mauvaises directions.
Des méandres, voilà. On peut.
Donc, je ne sais pas s'il y a une recette miracle.
Surtout en termes de justice. Donc vos premières années d'exercice professionnel, vous allez découvrir la profession. Alors à Carcassonne d'abord, Montbrison ensuite, la Corse après. Prenons donc ces premières années, donc vos premières expériences et puis parfois aussi vos premières déconvenues. Vous apprenez à composer, parce que parfois ils composent un peu. Donc expliquez-nous ça un peu.
J'allais le faire, allez-y.
Alors, effectivement, première expérience, hein. Moi, d'abord, ça a commencé comme ça. J'ai eu la chance de quasiment tout le temps, de toujours bien m'entendre avec mes chefs. Ça, c'est déjà une bonne chose quand on veut travailler en de bonnes conditions. Et effectivement, Carcassonne, J'ai connu assez vite, c'était au bout de 2 ans, trois ans, une première déconvenue qui m'a, dont j'ai beaucoup souffert, mais qui m'a aussi beaucoup marqué, mais qui m'a aussi fait comprendre certaines choses. J'ai eu à traiter à l'époque une affaire financière. Alors j'étais dans l'Aude. Hein. L'Aude, pour ceux qui connaissent pas trop ce département à l'époque,
il y a la donnée viticole.
C'est le département. Bon, c'est la crise viticole. Ouais. C'est le département qui vote le plus pour le PS. Hein. Monsieur Mitterrand faisait des scores entre 65 et 70%, hein, pour vous dire.
C'était l'ancien
Mitterrand. Et il y avait un certain nombre de barons locaux qui tenaient le département. Et moi, un beau jour, je tombe à l'occasion d'une enquête financière sur un de ces barons locaux qui était président de la CAF de la Fédération particulière des caves coopératives de toute la France, pour vous dire le poids qu'il avait. Il était administrateur au Crédit Agricole. Et il avait une pépinière. Et comme ses affaires n'allaient pas bien, il avait demandé un prêt au Crédit Agricole, mais il avait du mal à la rembourser. Donc il n'avait rien trouvé de mieux que de se faire ristourner une partie des intérêts du prêt qu'il avait sollicité. Le problème, c'est qu'il avait participé à la délibération de la Caisse régionale du Crédit Agricole. Il s'était donc ristourné lui-même ses intérêts. Bon, ça, c'est un délit. Hein. Voilà. À l'époque, c'était puni par la loi sur les sociétés coopératives agricoles, hein, puisque c'était ça qui régentait le fonctionnement du Crédit Agricole. Donc je fais une enquête qui confirme tout ça. Et puis, comme c'est un événement important, il faut le dire à son chef suprême, le procureur général. Donc je fais un bon rapport au procureur général de Montpellier en lui expliquant le dossier et en lui disant, la formule consacrée, hein, « Sauf meilleur avis de votre part, j'envisage d'engager des poursuites pénales contre M. Antel. » J'attends des semaines. Et puis au bout de 4 ou 5 mois, un beau jour, je reçois une lettre de mon procureur général en 2 lignes. « J'ai bien reçu votre rapport. Vous voudrez bien classer la procédure sans suite, l'infraction n'étant pas constituée. » Point. Signé le procureur général. Alors je me suis trouvé en fait dans une situation compliquée parce que moi j'aurais bien poursuivi. Alors j'ai peut-être certainement manqué de courage, hein, mais ça m'a aussi beaucoup appris. Mais si j'avais fait ça, j'aurais désobéi à mon PG. Et surtout, c'est mon procureur en fait qui en aurait aussi porté une grosse part de responsabilité. Donc je me suis couché, si vous permettez l'expression. Mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris. Alors d'abord, un an plus tard, j'ai eu un dossier strictement identique concernant, là encore une fois, la même banque dans le même département, où là, je ne me suis pas laissé faire et j'ai présenté les choses différemment. C'est-à-dire qu'au lieu de dire « sauf meilleur avis de votre part, j'envisage de poursuivre », j'ai poursuivi d'abord et j'ai rendu compte après. Donc comme ça, je n'ai pas eu de surprise. Mmh. Et puis surtout, cette expérience m'a beaucoup servi parce que je me suis juré en fait que ça ne m'arriverait plus jamais. Voilà.
Voilà. Mais bon, vous faisiez vos classes.
On apprend de ses erreurs, de ses faiblesses.
Et de ses faibles, voilà. Et donc, ensuite, donc votre carrière commence. Vous veillez à ne pas rester trop longtemps dans un poste. C'est le principe, hein, quand on est dans ses premières années. Vous revenez vers Lyon ensuite. Et puis, là, il y a l'expérience de la Corse aussi. La Corse, qui est quand même un territoire particulier pour la profession que vous exercez. Et vous aurez quelques dossiers importants. Comme bon, déjà le fait de s'installer dans le département et de prendre en compte vraiment la nature, y compris politique, et les tensions qui peuvent exister, et la place du procureur dans ce cadre-là, et les questions qu'on peut se poser, hein, lorsque par exemple une affaire criminelle arrive, est-ce qu'on le temps de Furiani va arriver, nous allons l'aborder, mais est-ce qu'on conserve le dossier, est-ce qu'on déporte, tout est compliqué, on n'a pas l'impression à quel point il est complexe même de s'emparer d'un dossier dans un territoire comme celui-ci.
Ouais. C'est effectivement un territoire à part. C'est effectivement un territoire un peu à part où j'ai passé en fait 2 ans et demi. Je n'étais pas obligé d'y aller parce que je ne l'avais pas demandé. Quand on est magistrat, pour changer de poste, on fait ce qu'on appelle des desiderata. Donc vous faites la liste des postes que vous accepteriez et vous êtes tenu que par la liste des postes que vous avez demandé. Et là, en fait, on m'a proposé quelque chose qui était en dehors de la liste et que j'ai accepté parce que c'était effectivement intéressant. À l'époque, j'avais quel âge ? Donc c'est 91 ans. Donc j'avais 38 ans. Et en fait, c'était un poste de fait d'adjoint du procureur général, donc de toute la Corse, pour s'occuper des affaires de criminalité violente, de criminalité organisée, des affaires économiques et financières et le terrorisme. Donc j'ai dit oui, et effectivement j'y suis allé. Et j'y suis resté 2 ans et demi dans des conditions effectivement peu difficiles, parce que on a beaucoup parlé dans la presse à l'occasion d'affaires récentes. Hein, je ne veux pas parler de dossiers en cours que je ne connais pas en plus, mais on ne peut pas travailler et vivre comme on vit par exemple à Clermont-Ferrand. Vous arrivez là-bas par exemple, vous cherchez un logement, on va vous demander votre profession, vous êtes tout de suite identifié. En réalité, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir trop de relations avec les gens, parce qu'on va commencer à vous solliciter, on va commencer à vous rendre des services. Et en fait, il ne faut pas devenir obligé, il ne faut pas devoir des services. Et on vit en réalité un peu reclus, quoi. Hein. C'est un peu comme un moine, quelque part. Et j'avais quasiment de relations avec personne. Hein. D'accord, j'en ai profité après, lorsque je suis revenu en touriste.
Ensuite, en termes de collègues, vous commencez à travailler avec Jean-Louis Nadal, qui est une des grandes rencontres professionnelles de votre vie. Il y en aura un autre avec... Monsieur Truche, mais Jean-Louis Nadal était un grand collègue.
Oui. C'est effectivement une rencontre que j'avais faite, hein, que j'évoque dans le livre. J'ai connu Jean-Louis Nadal quand il... Moi, j'étais auditeur, il était directeur des stages à l'école de la magistrature. Voilà. Mais effectivement, donc c'est quelqu'un que je connaissais. Je connaissais son dynamisme, ses fulgurances intellectuelles, parce qu'il il en avait souvent. Et donc, effectivement, j'y suis allé. Et, mais ça montre aussi, ça, ce type de personnalité, que quand on travaille sur un territoire donné, il faut être capable de comprendre la psychologie des gens et les vraies problématiques qui vont se poser sur le territoire. Et c'est ce qu'on a fait avec Furiani.
Voilà, c'est ça. Et vous êtes ensemble un soir, vous dînez, le match commence. Vous savez que la tribune qui accueille 18 000 personnes de manière temporaire en métal a été installée. Le speaker qui est là...
On la voit s'effondrer sous nos yeux à la télé.
Et ce qui devait se passer se passe.
Avec 19 morts et des centaines de blessés. Parce qu'en fait, c'est un montage à la va-vite... En s'affranchissant de toutes les contraintes administratives de sécurité et financières. En Corse, s'il y en a qui connaissent l'île, il y a un proverbe qui résume ça. Les Corses, ils appellent ça le lacciagore, laisse courir. C'est-à-dire qu'on laisse les choses faire et puis on ne respecte pas les normes. Donc il y avait un enjeu derrière ce dossier. Moi, je m'en suis occupé pendant un peu plus d'un an. Mais il y avait surtout un gros enjeu, c'était de savoir si on le laissait à la justice de l'île ou si on le remettait sur le continent.
C'est le dépôt, pas.
Parce qu'à l'époque, il y avait dans le code de procédure pénale, il y avait ce qu'on appelle un privilège de juridiction. C'est-à-dire, quand vous étiez préfet d'un département et que vous étiez mis en cause dans une affaire pénale, il fallait saisir la Cour de cassation qui désignait la juridiction qui allait être chargée de l'enquête et chargée de l'instruction. Voilà. Donc le préfet de Haute-Corse étant mis en cause dans la catastrophe de Furiani, logiquement, le dossier aurait pu être dépaysé. Mais en réalité, le procureur général a compris, et moi avec lui, j'étais d'accord avec lui, qu'il fallait surtout pas faire ça, et que si on avait envoyé, délocalisé le procès et l'instruction de la catastrophe de Furiani ailleurs, la société corse aurait vécu ça comme une forme de dépossession particulièrement injuste et une marque de défiance envers le système judiciaire français dans l'île. Et ça ne serait pas bien passé du tout. Donc il a eu l'intelligence de comprendre ça. Et effectivement, donc, on a fait à l'époque ce qu'il fallait, parce que c'est encore à l'époque où il y a des instructions dans les affaires individuelles. Hein. On a pu persuader le ministère et l'ensemble des autorités que ce dossier, il fallait absolument qu'il reste dans l'île pour être instruit et aussi pour y être jugé. Et je pense que il s'était pas trompé.
C'était d'une bonne... Voilà, ça aurait été pris comme un affront et c'était d'une bonne administration de la justice. Voilà. Et ça préservait aussi justement le travail des équipes dont on parlait. Hein, voilà. Donc, ensuite, vous revenez donc sur le continent, sur un poste dans la région de Lyon. Je reprends toujours au fil du récit. Et là, donc, vous allez avoir deux expériences successives, à la fois à Lyon et ensuite dans le département de Seine-Saint-Denis. Donc, deux expériences successives extrêmement fortes. Vous le dites, on a affaire à de belles affaires criminelles, mais voilà, on a affaire à des affaires violentes, complexes. On est sur un autre niveau avec un banditisme important.
À Lyon ou en Seine-Saint-Denis ?
À Lyon d'abord.
Oui, effectivement, Lyon, c'est une grande métropole. Hein. Lyon, effectivement, à l'époque, il y a beaucoup de criminalité organisée. Et puis, surtout, c'est l'époque des affaires politico-financières. puisque c'est l'époque où vont être poursuivis Monsieur Noir, Monsieur Botton et Monsieur Carignan.
Et voilà. Et l'une des premières images en arrivant d'ailleurs dans les locaux, c'est le soir, et vous croisez Alain Carignan qui rentre.
Et oui, on veut sortir avec le procureur général, c'est tard, on est dans le noir, et la voiture peut pas sortir, elle est bloquée parce qu'il y a un fourgon de police qui bloque l'entrée du tribunal à l'intérieur. Et effectivement, le fourgon de police, il est bloqué parce qu'il attend. Et on voit arriver, effectivement, Monsieur Carignan menotté avec des policiers qui montent dans le fourgon pour partir aux prisons Saint-Paul. Et effectivement, quand on voit ça, on a la sensation d'assister à des moments un peu particuliers, quoi, où on comprend que le rôle de la justice et de l'institution judiciaire est en train de changer.
Parce que peu de temps auparavant, il était à la fois ministre, maire de Grenoble...
Ouais.
Peu de temps auparavant, en fait,
hein, dans
des fonctions de cet ordre-là. Et donc, effectivement, ce travail donc, dans le territoire lyonnais vous permet aussi de, non pas de faire la connaissance, mais enfin, de retrouver, de travailler avec Pierre Truche, par exemple. Voilà. Mm-hmm. Donc, à une deuxième personne à qui vous rendez hommage aussi à la fin, de vos mémoires, qui travaillait comme procureur pour le procès Barbie également, et avec au contact duquel vous avez travaillé. Comment vous qualifieriez ce personnage qui est, enfin, certains d'entre nous se souviennent du personnage, qui était en plus un personnage, c'est une figure, voilà. Comment vous qualifieriez ce magistrat ?
Oh, c'est une figure, j'allais dire, très hors norme. Hein. Pour moi, c'est une sorte de... Bon, ça a été un mentor, c'est sûr, mais c'est quelqu'un surtout qui incarnait des idées très précises sur le rôle de la justice et spécifiquement du parquet dans le traitement des affaires et surtout, en toutes circonstances, le respect de la dignité humaine. Qui se faisait effectivement une idée de la justice qui devait vraiment être, j'allais dire, la marque de ce que voulait la société, pour qui effectivement, c'est pas les magistrats qui étaient propriétaires de leur justice. La justice, elle devait correspondre à ce que souhaitait collectivement l'expression des citoyens. Et c'est quelqu'un qui avait effectivement, par rapport à ça, de très grandes exigences, hein, de très grandes exigences professionnelles, en termes à la fois de compétences et aussi de déontologie. Il disait d'ailleurs souvent que quand on est magistrat, on a deux formes de légitimité. La première, c'est une légitimité technique qu'on tire de la compétence qu'on a, parce qu'on ne peut pas être légitime si on n'est pas compétent. Et la deuxième légitimité, qui est d'ordre moral et qui va tenir au respect du statut qu'on a prêté, du serment qu'on a prêté lorsqu'on est devenu magistrat. Et il expliquait que c'est ces deux choses. Mais pour autant, c'est quelqu'un qui... est-ce que ça serait encore possible aujourd'hui ? Mais je pense qu'il aurait vécu de la même façon, qui a toujours su ménager, ce que moi j'ai peut-être pas su faire aussi bien que lui, un équilibre entre les exigences de la vie professionnelle et les exigences de la vie personnelle. Parce qu'il disait aussi à l'époque, mais c'était peut-être plus facile à réaliser qu'aujourd'hui, qu'on s'engageait, on savait quand on était magistrat qu'on n'allait pas quitter le tribunal à 18h, mais que pour autant, il fallait pas sacrifier sa vie personnelle à son travail, et qu'il fallait continuer à avoir une vie à côté, familiale, personnelle, culturelle, etc. C'est peut-être plus difficile à réaliser aujourd'hui, je pense.
Oui, c'est compliqué, mais à votre époque, entre guillemets, ça l'était déjà complexe. Vous expliquez aussi à un moment donné où votre famille, votre fils, par exemple, n'a pas pu rester à la maison parce que les conditions rendaient le tout complexe, où vous avez à un temps dû habiter hors de chez vous, dans un couvent pendant...
Ah, oui.
Voilà, c'était quelque chose de... Voilà, on s'adapte.
Oui, effectivement, moi j'ai peut-être eu une vision, mais je suis pas le seul, parce que je pense qu'il y a, sur ma génération, c'est quelque chose qui était assez partagé, mais ça correspond aussi aux évolutions de la société, qui est plus aujourd'hui ce qu'elle était il y a 40 ans. On avait peut-être à l'époque une vision qui était quasiment sacerdotale des fonctions qu'on avait, et effectivement qui pouvait amener à sacrifier beaucoup de choses. Hein. Alors moi c'est ce que j'ai fait, effectivement, en termes de mobilité. J'ai par contre toujours eu la chance de pouvoir toujours bouger en famille, c'est-à-dire que sur le plan familial, j'ai jamais fait ce que j'appelle j'ai jamais été célibataire géographique, à l'exception de cette période corse où pendant deux mois et demi, mon épouse était rentrée à Lyon.
Spirituelle, en fait,
elle m'avait laissé dans l'île, et pour être sûr que je sois sage et que je sois bien traité, elle m'avait mis pendant deux mois et demi chez les bénédictines du monastère d'Herbalong. Hein. Voilà. Mais en dehors de ça, effectivement, on est toujours, on a bougé, mais on est toujours resté ensemble.
Voilà. Donc après la séquence lyonnaise, vous revenez dans le département du 93. Vous parlez de département monde. Le département monde, considérant effectivement la variété et puis la puissance et la violence des sujets que vous allez traiter dès le premier jour. Hein. Vous repérez une Ferrari et vous expliquez au commissaire que là, manifestement, il y a un sujet. Et effectivement, il y a un sujet, mais c'est dès le premier jour, première minute, en descendant de la voiture.
Oui, c'était au début, oui. Alors, Bobigny, d'abord, effectivement, j'ai voulu y aller. Hein. J'aurais pu avoir des choses moins agitées, moins exposées. J'aurais pu prétendre à un poste de procureur général dans une petite cour d'appel. Je sortais de la direction des affaires criminelles et des grâces où j'étais directeur adjoint. Mais en fait, j'ai voulu y aller parce que c'est un poste qui me plaisait. Il y avait des enjeux qui étaient particulièrement forts à relever. C'était pas du tout évident de réussir, mais c'est aussi ça qui me plaisait. Ça a toujours été un peu un moteur dans le choix des postes que j'ai fait. Et effectivement, là, pour l'épisode que vous évoquez, un jour, je rentre d'une... Pour vous, comme quoi, c'est une façon de montrer que le parquetier, il a aussi un peu le sens et l'instinct du chasseur. Donc je rentre d'une réunion à la préfecture avec le chauffeur. Et je passe devant une barre d'immeuble dans Bobigny. Bon, Bobigny, c'est vraiment la banlieue 93. Hein. Et je passe sur la route, je vois au pied d'un immeuble une magnifique Ferrari rouge en train de se faire plaquer, donc de se faire poser une plaque d'immatriculation par un camion ambulant qui est situé au pied d'une barre d'immeuble. Alors je me suis dit,
quoi de plus normal ?
Il n'y a rien de plus anormal. Quand on a les moyens de mettre des sommes pareilles dans un véhicule pareil, on ne va pas le faire plaquer dans un camion mobile au pied d'une cité. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc effectivement, je rentre au bureau et qu'est-ce que je fais? D'abord, j'ai noté le numéro d'immatriculation tout de suite. On a ralenti, j'ai noté le numéro. Et j'ai appelé le commissaire chef de la sûreté en lui disant... Monsieur Pasqualini, il y a un problème, il y a quelque chose qui colle pas. Il m'a dit effectivement. Donc on a topé pour une enquête et au bout de quelques mois, on est tombé sur une gigantesque affaire qu'on n'a pas pu garder à Bobigny, qu'on a envoyée à la juridiction interrégionale spécialisée de Paris. C'est une affaire de blanchiment ayant pour origine des ventes d'escroquerie de yachts au pays de l'Est. Vous voyez le petit événement et la ficelle qu'on va tirer et la pelote à laquelle on arrive.
Voilà, vous aviez eu un regard sur la chose et c'est vrai que...
Et ce dossier est en train d'être fini tout juste maintenant pour montrer les lenteurs de la justice financière. Ouais. C'est pas l'honneur de l'institution, parce que c'est une de mes anciennes collègues de Bobigny qui en a arrêté à Paris pour la petite histoire. Ça, c'est, je l'ai pas mis dans le livre parce que je savais pas à l'époque. Il est en train de se terminer aujourd'hui alors qu'il avait été ouvert il y a 17 ou 18 ans.
Mais ça, vous le notez aussi, effectivement, parfois, des retards de dossiers ou des dossiers
non traités. Je pense que ma collègue a dû me maudire lorsqu'en arrivant à Paris, elle a trouvé ce dossier que j'avais ouvert quand elle était avec moi à Bobigny.
Oui. Et ça, c'est vrai que vous avez parfois le regard sur la Ferrari et le regard sur certains dossiers. Et c'est assez fascinant de voir, d'ailleurs, dès la couverture du livre, on ne voit presque que votre regard là-dessus. On se dit, attention, quand le regard de François Molin se pose sur quelqu'un, sur quelque chose ou sur un dossier, généralement, il vaut mieux arriver dans son bureau sans avoir grand-chose à se reprocher. Mais dès la couverture, ça se voit. Vous le dites, effectivement, plusieurs fois aussi, la justice, splendeur et misère. Hein, une fois que vous arrivez dans un poste, il y a presque 70 000 dossiers qui n'ont pas été traités.
Oui, à Bobigny.
Bobigny, ouais, c'est là. C'est Bobigny.
70 000 PV qui étaient en fait non enregistrés, qui avaient été entassés dans une pièce, et donc on les découvre par hasard. 70 000.
C'est ça. Et donc ils n'ont pas pu, ils ont été classés.
Bon, la plupart c'était des X, mais on a tout classé sans même l'enregistrer, ce qui était une façon de repartir à zéro sur des bonnes bases. Et puis voilà. Ça, c'est la Seine-Saint-Denis.
Et là, vous le dites encore, effectivement, dans ce poste spécifiquement, rassembler les équipes, hein, travailler en commun, travailler sur la prévention aussi. C'est la première fois vraiment dans les lois où vous parlez vraiment de travailler sur la prévention, organiser.
Oui. C'est un département, il y avait des tas de combats. Hein. Il y avait l'enfance en danger. J'en parle pas trop dans le livre de ça parce que je ne me suis pas estimé comme étant le plus légitime pour le faire. La criminalité organisée, bien sûr, le trafic de stupéfiants. Il y a deux combats dont je parle plus particulièrement, par contre, en les détaillant. C'est le combat qu'on avait mené avec un sous-préfet contre l'habitat indigne. parce que c'est un département très pauvre dans lequel se développait une politique de marchands de sommeil qui en fait profitaient de leur situation pour louer des logements insalubres ou indignes à des gens sans le sou, et d'ailleurs souvent des migrants en situation irrégulière et dans des conditions qui étaient vraiment à l'opposé de toute idée de dignité humaine. On avait obtenu la création d'une unité dédiée de la gendarmerie. On avait un corps de 5 enquêteurs qui ne faisaient que ça. On avait eu des résultats vraiment extraordinaires pendant 4 ans, jusqu'à ce que la gendarmerie quitte le département et que donc le service d'enquête soit purement et simplement fermé. Voilà comment ça se passe dans l'administration. Et puis le deuxième combat, c'est les violences faites aux femmes.
Je sais pas si vous abordez. Oui, maintenant. On abordera à la fin. Comme
à la fin.
Je prends une continuation chronologique comme ça. Oui. C'est, voilà. Également. Juste après ce poste, alors c'est intéressant votre carrière. En fait, comme vous dites, un pas de côté, je pense qu'on ne peut pas le dire plus simplement et plus précisément. On vous propose d'intégrer le cabinet de Michel Alliot-Marie, qui à l'époque est garde des Sceaux, et pas n'importe quel poste, hein, celui de directeur de cabinet. Vous acceptez?
Oui, alors d'abord, je l'avais pas demandé, j'avais rien fait pour l'avoir.
On vous le propose, alors.
Oui, oui. En réalité, Mme Alliot-Marie était ministre de l'Intérieur. Les ministres de l'Intérieur viennent très souvent de Seine-Saint-Denis. C'est sûrement le département qui reçoit le plus de ministres après Paris. Et donc, elle avait vu que je travaillais bien avec la police et la gendarmerie. Donc, quand elle s'est trouvée garde des Sceaux, elle s'est dit, ben, c'est celui-là que je veux comme directeur de cabinet. Donc, elle me l'a proposé. J'ai beaucoup hésité pendant 2 jours. J'ai pas dormi pendant 2 nuits, quasiment. C'était vraiment 50-50, j'étais à 2 doigts de refuser. Et puis finalement, un peu poussé par mon épouse d'ailleurs, j'ai fini par y aller en me disant que, avec l'expérience que j'avais comme procureur, ça pourrait peut-être être utile pour faire avancer les choses. En réalité, franchement, c'est peut-être aussi pour ça que le chapitre est si court. On a beaucoup travaillé sur l'administration pénitentiaire, sur un certain nombre de textes, sur la loi pénitentiaire. Ça a été assez... la loi sur la garde à vue, hein, après la condamnation et les décisions qui avaient été prises par la Cour de cassation et la Cour européenne. Mais en réalité, moi, assez vite, je me suis rendu compte que le terrain me manquait et que la politique, c'était pas aussi simple que ça n'avait l'air. Et qu'on était en réalité, j'allais dire, souvent dans ces milieux politiques, en situation le plus souvent de mettre en œuvre ce qu'on pourrait considérer comme des compromis. C'est-à-dire effectivement des compromis entre des points de vue différents. Et puis dans le fonctionnement du gouvernement, on est très souvent en réalité en situation et en mission de mettre en œuvre ce qu'on appelle des arbitrages interministériels. C'est-à-dire que les gens se disputent, il y a des positions différentes, et puis vous avez un arbitrage qui est pris à Matignon, et puis après il faut l'exécuter. Donc effectivement des situations dans lesquelles on n'a pas une immense marge d'initiative et une immense liberté. Donc ça, je reconnais qu'assez vite, ça m'a lassé. Et au bout de 2 ans, j'ai voulu revenir sur le terrain. Et c'est comme ça, effectivement, que j'ai retrouvé la tête du parquet de Paris.
Et comme vous le faites observer dans la fin du livre concernant vos relations, vos rapports ou échanges avec Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, qu'en France, compte tenu de la séparation des pouvoirs, la position, alors là, pour le coup, du garde des Sceaux en tant que tel est complexe quand même. C'est un ministre particulier par rapport aux autres ministres. Il est représentant du pouvoir judiciaire, donc être son directeur de cabinet, c'est compliqué. Sa position est complexe, en fait.
Oui, oui, c'est un ministre qui n'est pas comme les autres, en réalité, le garde des Sceaux. Parce que il dirige un service public qui n'est pas un service public comme les autres, parce que la justice est un service public à valeur constitutionnelle.
Voilà, le troisième pouvoir.
Hein, et d'ailleurs, dont les fonctionnaires, les magistrats ne sont pas régis par le statut de la fonction publique, ils sont régis par un statut qui résulte d'une loi organique. Une loi organique, ce n'est pas une loi ordinaire, c'est une loi qui est soumise chaque fois, hein, systématiquement, au contrôle du Conseil constitutionnel. Hein. Donc ce n'est pas une situation comme les autres. Et donc effectivement, moi j'estime que le garde des Sceaux n'est pas un ministre comme les autres, parce que il a, compte tenu des spécificités du service public de la justice, a incarné, enfin je pense que normalement, moi je le vois comme ça, hein. Peut-être je me trompe, mais c'est ce que j'en pense, hein. Et je pense que compte tenu du service public qu'il dirige, il doit effectivement incarner le plus possible les valeurs qui sont portées par les magistrats qu'il a sous son autorité. Voilà.
Donc est-ce... oui, voilà, on peut pas le dire plus simplement pour la fin du livre. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Bien. Continuons. Et donc juste après, alors ce pas de côté, votre petite incartade, non pas en politique, mais au service d'une politique, vous fait venir vers le parquet de Paris. Ouais. Et vous siège là pour le coup avec le politique, avec quelques affaires plutôt importantes sous le mandat de Nicolas Sarkozy particulièrement,
oui.
Notamment. Et là pour le coup, vous êtes confronté effectivement à un certain nombre d'affaires.
Alors d'abord, en arrivant au parquet de Paris, j'ai été confronté à une grosse polémique, hein, puisque c'est avant les élections de 2012,
hein,
où M. Hollande va être élu. Donc les syndicats et les partis politiques d'opposition voient ma nomination comme procureur de Paris comme un moyen pour la droite de nommer quelqu'un, un homme lige, comme ils disent, qui va être là pour étouffer les dossiers qui concernent la droite. Et je vais même me voir un jour un canard enchaîné, quelque chose qui me chagrinera quand même beaucoup, ou une caricature où on me présente en grand avec la robe l'hermine tout en rouge, très grand, à côté de Nicolas Sarkozy tout petit, qui me tend une pelle en me disant « Tiens, ça c'est pour enterrer les dossiers ». Et il y a toute une pile de dossiers par terre, au bord d'un trou, avec écrit « Karachi », puis etc. quoi. Voilà. Et donc en fait, je l'ai pas très bien vécu, parce que même si tout le monde m'expliquait que mes qualités personnelles n'étaient pas en cause, je l'ai mal vécu. Mais comme je suis du mode résilient, je me suis dit bon, mais puisque c'est comme ça, je vais montrer en fait comment je fonctionne. Et en réalité, c'est un fil rouge, moi, qui m'a guidé à Paris tout au long des 7 ans de fonction. J'ai eu beaucoup de dossiers économiques et financiers. Je suis là à une époque où il n'y a pas encore le parquet national financier. Et je me suis toujours astreint à traiter tous ces dossiers de la même façon, qu'ils soient de gauche, d'extrême gauche, de droite ou d'extrême droite. Et en 7 ans, on a eu en réalité effectivement des dossiers économiques et financiers qui ont couvert tout le champ du politique, de M. Mélenchon à Mme Le Pen. Voilà. Et on a fait le travail.
C'est ça. Avec une affaire Benalla au milieu,
on
peut la qualifier, je ne sais pas si elle est... Voilà. Voilà. Ensuite, bon, nous arrivons, et c'est terrible, vers la vague des attentats.
Oui.
Commençant par la tuerie de Toulouse, celle de Montauban, ces assassinats successifs épouvantables. Et donc là, vous allez être aussi au premier chef invité et impliqué directement dans, là pour le coup, la prise directe sur ces vagues qui vont arriver, qui ont l'impression ne s'arrêteront pas ensuite.
Oui, effectivement, à l'époque, donc il n'y a pas de parquet terroriste spécialisé, donc c'est le parquet de Paris en réalité qui a une compétence sur le terrorisme, hein, national et aussi international. Voilà. Donc effectivement, avec cet événement, avec l'affaire Mera, on rentre dans un cycle, il n'y a pas d'autre mot, une sorte de cycle infernal qui va nous confronter en fait effectivement à deux choses, deux enjeux majeurs. Le premier, c'est d'arriver à gérer judiciairement, donc à judiciariser les renseignements concernant tous les départs de 2000 Français en Syrie qui sont partis là-bas pour rejoindre Daesh. Donc on aura de cesse tout au long de ces 7 ans d'ouvrir de plus en plus de dossiers. Et on va arriver comme ça à poursuivre quasiment 1700 ou 1800 personnes devant le tribunal correctionnel et la cour d'assises. Et le deuxième enjeu, ça a été effectivement de toujours travailler pour d'abord essayer de prévenir les attentats. Malheureusement, il y en a des tas qu'on n'a pas pu prévenir. Et puis surtout, s'attacher à les traiter le mieux possible en essayant, à l'occasion de chaque attentat, à travers ce qu'on appelait, comme font les militaires, des rétex, des retours d'expérience, essayer d'identifier ce qui n'avait pas bien fonctionné pour de se corriger, apprendre de ses erreurs et avoir une gestion de la crise qui soit plus efficace, plus efficiente sur le coup d'après. Et effectivement, donc, c'est ce qu'on a connu de mars 2012 avec Mera. Moi, le dernier attentat que j'ai connu, c'est l'attentat de l'Opéra en mai 2018. Hein. En passant par Charlie Hebdo, le Thalys, le Vendredi 13, l'attentat de Nice, Carcassonne, Trèbes, plus tous les autres. Et donc une période en réalité extrêmement anxiogène, parce que on était vraiment effectivement dans une sorte de spirale dont on avait l'impression qu'on ne sortirait jamais et que quels que soient les efforts qu'on consentait, les améliorations du travail et les initiatives qu'on prenait, eh ben, on n'arrivait pas à enrayer et de nouveau on avait ces attentats qui revenaient.
Et voilà. Mais à chaque fois,
on avait un attentat ou un projet d'attentat quasiment toutes les 5 à 6 semaines.
Et à chaque fois, vous vous réinterrogez les regards que vous pouvez porter sur certaines approches. Par exemple, vous dites, voilà, je ne crois pas à la notion, à la théorie du loup solitaire, par exemple. Quand on cherche, au début, on pensait que ça existait, puis en fait, ils ne sont jamais franchement solitaires.
Oui, loup solitaire, c'est une expression que j'avais employée, moi, à l'époque de la fermière, que je n'ai plus jamais employée.
Plus jamais.
Je me souviendrai toujours, je me suis fait tomber dessus par des internautes. Et bon, je ne veux pas dire que je me détermine en fonction de ce qu'on dit sur Internet, mais là, ils avaient raison en lisant ces commentaires. Le loup solitaire, c'est quelque chose de très réducteur, en réalité, dans la mesure où la personne qui va passer à l'acte sur un mode individuel, en réalité, elle n'est pas toute seule, véritablement, parce qu'il y a toujours des gens derrière, il y a toujours des complicités en termes de logistique, et puis il y a toujours, j'allais dire, des complices ou des comparses, voire des auteurs intellectuels qui sont là pour le pousser. Donc en réalité, il n'est pas seul. Effectivement, il va appliquer une idéologie mortifère, mais il y a toujours un moment ou un autre des gens qui sont derrière, d'une façon ou d'une autre.
Et puis, réinterroger la manière de faire les enquêtes, se dire, voilà, ces faits ne se passent pas que dans les grandes villes ou que dans tel quartier. On apprend, par exemple, vous le signalez, que certains, terroristes sont allés dans le Cantal pour s'entraîner ou dans des bases arrières.
Oui. On trouve des bases arrières. Oui, mais ça, on ne l'avait pas vu à l'époque, mais effectivement... Effectivement, à l'époque, c'est ce que j'explique dans le livre. Alors, effectivement, c'est toujours plus facile de comprendre les événements après, parce que les événements sont produits, et on a la grille de lecture, et on se dit, effectivement, mais c'est bien sûr.
On l'a pas vu.
Oui, on l'avait pas vu. Effectivement, Charlie Hebdo, on l'a compris après. J'explique dans le livre, je connaissais un collègue qui l'avait vu, mais bon, il avait un peu tiré la sonnette d'alarme là-dessus. Mais bon. Le Charlie Hebdo, effectivement, c'est... On avait effectivement ce que vous évoquez, c'est-à-dire que on a les frères, Hamedi Coulibaly, par exemple, donc l'auteur de l'attentat de l'Hypercacher, qui en réalité va avec sa conjointe Ayad Boumediene dans le Cantal pour rencontrer M. Begal, qui est interdit de séjour en région parisienne, et donc ils viennent se retrouver dans le Cantal. Et en réalité, quand on analyse tout ça et les conjonctions avec d'autres, on voit effectivement que Charlie Hebdo et Hypercacher, c'est la conjonction, effectivement, d'une nouvelle vague de terrorisme qui est constituée donc de la conjonction entre des vétérans du GIA, c'est Smaïn Haït Belkacem et tous ces gens-là, des vétérans du GIA, les filières Butte-Chaumont, donc des individus radicalisés qui sont devenus hyper radicalisés depuis plusieurs années, et puis l'émergence d'une génération de ce qu'on pourrait appeler des braqueurs ultra-violents, et ça c'est Hamedi Coulibaly. Et c'est ça, en réalité, qui va constituer les commandos, effectivement, qui passeront à l'acte les 6, 7 et 8 janvier. Et
on est plus dans des meutes dissimulées que dans des loups solitaires.
On le voit après coup, effectivement, on a toutes les clés, on comprend. Mais avant, on ne le voit pas.
Et comme nous le disions au début de notre propos, pour les attentats de Charlie, donc de janvier 2015, vous êtes l'un des premiers à vous rendre sur place. Le chef de l'État est là, Bernard Cazeneuve aussi.
Ils sont arrivés après.
Un petit peu après,
oui,
voilà.
Oui.
Enfin, c'est concomitant, c'est vraiment en peu de temps. Et il faut gérer effectivement ce monde qui est présent. Et on peut revenir au moins sur celui-ci, sur le Bataclan, sur une zone de guerre. Enfin, c'est quelque chose.
Oui. Puis surtout, c'est des zones de guerre, mais c'est d'abord avant tout des scènes de crime où il faut préserver et protéger les traces. Il ne faut pas qu'elles soient polluées par des gens qui vont aller et venir. Par exemple, je me souviens, moi, le Charlie Hebdo, aucun politique n'est monté dans l'immeuble de Charlie Hebdo. Le président est resté en bas, la garde des Sceaux est restée en bas, le ministre de l'Intérieur aussi, tout le monde est resté en bas.
C'est ce que vous dites.
Les seuls à être montés, c'est les enquêteurs, le directeur de la PJ et moi.
Voilà, ce que vous dites. Effectivement, sur ces moments-là, sur ces temps-là, vous les très souvent, nous arrivons, c'est épouvantable, il y a beaucoup de monde, voilà. Mais il faut que les équipes se mettent en action, et en même temps, je repars pour sécuriser le dossier, pour faire en sorte que tout ça, pour faire en sorte qu'au moment où le procès arrivera, en quelque sorte, toute la procédure soit pas fragilisée.
Oui, parce qu'en fait, le procureur en matière terroriste, il a des tas de compétences à exercer, qui sont multiples, qu'on n'imagine pas. Et qui montre que les décisions, il faut les prendre très vite. Alors la première, qui relève de l'évidence, mais c'est pas toujours évident, c'est est-ce que les faits sont terroristes ou pas ? Et alors déjà, il faut vite répondre à la question, parce que suivant comment vous répondez, tout va s'enchaîner. Si c'est terroriste, ben vous saisissez. Vous saisissez, donc il faut choisir des services de police. En général, il y en a trois. Il faut choisir un coordonnateur. Hein. Il faut après dépêcher des magistrats sur toutes les scènes de crime. Il faut après décider est-ce qu'on organise la cellule de crise du parquet ou pas. Ça aussi, il faut aller très vite. Il faut sécuriser la procédure, s'occuper de toutes les requêtes au juge pour obtenir les branchements téléphoniques, les perquisitions, toutes ces choses-là. Il y a la communication. Il faut prendre des décisions en termes de médecine légale, qui en autopsie, qui en autopsie pas. Et puis après, il faut lancer tous les dispositifs d'aide aux victimes, être prise en charge des victimes. Et on a notamment une obligation. Il faut qu'on signale au fonds de garantie des victimes du terrorisme le nom de toutes les victimes, parce que le fonds en a besoin, puisqu'il est obligé de, par la loi, de faire, dans le mois de l'attentat, une offre provisionnelle d'indemnisation. Donc vous avez tout ça à faire. Effectivement, il faut aller vite.
Dans le passage d'ouverture de vos mémoires, vous dites en quelques mots à quel point vous voulez rendre compte, expliquer. À ce moment et à ce moment du livre, ça fait déjà plusieurs fois que vous citez ces moments où vous comprenez qu'il faut, vraiment un moment, et c'est votre patte en fait, qu'il faut parler à la presse. Il faut faire une conférence de presse. Et plusieurs fois dans le livre, vous théorisez presque ce moment de prise de parole devant la presse, parce que il faut rendre compte, il faut expliquer, justifier un peu, expliquer tout le temps. Et ça va être, et même pendant le Covid, lorsque le médecin coordonnateur des opérations de prévention viendra, on dira voilà, il fait une opération Molins en fait. Voilà, donc il parle.
Oui, en fait, je pense qu'il y a une très grande majorité des gens qui se souviennent très bien de ce qu'ils faisaient le jour de Charlie Hebdo ou le jour de Vendredi 13. Parce qu'en fait, ça a marqué tout le monde, ça a traumatisé, je pense, l'ensemble de la société. Donc on a en fait compris, nous, très vite, que dans des circonstances comme ça, la communication, ben, c'était elle relevait d'une évidence absolue. Hein. C'est évident qu'il fallait communiquer pour informer. Et puis je pense que nos concitoyens, ils avaient besoin de savoir, et il n'y a que le procureur qui pouvait leur dire. De toute façon, il faut savoir, pour communiquer sur les enquêtes, la loi donne un monopole, hein, nos communications, c'est le parquet. Il n'y a que le procureur qui peut parler des enquêtes en cours. Voilà, c'est le seul à qui la loi donne ce pouvoir. Donc effectivement, on l'a fait. On l'a fait comme on a pu. Hein. C'est un travail collectif, hein, je m'empresse de le préciser. Moi, je faisais ça avec une équipe de 5 ou 6 personnes. Une chargée de communication qui était magistrate. Donc c'est vraiment un travail collectif dans lequel chacun a apporté sa touche personnelle. Et puis surtout, on a tellement bien compris le côté indispensable de cette communication que on a continué. Et c'est comme ça qu'on a, en l'espace de... En tout, je crois que je le dis dans le livre, j'ai fait 55 conférences de presse en matière terroriste, ce qui est quand même considérable. Et à un moment donné, quand les gros attentats majeurs sont passés, les collègues du parquet auraient voulu qu'on arrête. Parce que c'est vrai que ça donnait beaucoup de travail, ça nous exposait. Et c'est moi qui n'ai pas voulu, en réalité. J'ai imposé, en réalité, ma volonté de continuer. Et franchement, avec le recul, je pense que j'ai bien fait. Parce que si on avait arrêté de communiquer, je pense qu'on aurait suscité une incompréhension de la part de nos concitoyens qui se seraient dit « Mais pourquoi ? Pourquoi on ne les entend plus ?» Et bon, on vient d'une société dans laquelle la théorie du complot a quand même une belle part aujourd'hui. Et je pense qu'on l'aurait certainement alimenté. Et qu'on aurait, on aurait pu que susciter chez nos concitoyens la question de savoir, mais pourquoi ils se taisent ? En fait, on nous cache des choses. Donc je pense qu'on a voulu rester dans la transparence, et je pense que ça a été utile. Et c'est d'autant plus utile, s'agissant de la justice, que la transparence, elle sert aussi à inspirer confiance. Et on ne peut pas inspirer la confiance si on n'a pas la transparence. Donc je pense que...
C'est vrai que les attentats ont fait évoluer beaucoup de pratiques professionnelles en termes de la sécurité publique, dans la justice, l'administration de la justice, et dans ces moments-là également.
Notamment après les attentats, on a tout seul comme des grands, hein, parce que c'est pas du tout le ministre de la Justice qui nous l'a demandé. On a décidé, notamment à l'été 2016, qu'on a estimé qu'on était fondé à considérer que tous les gens qui rejoignaient Daesh en Syrie pour aller se battre
et faire l'apologie du terrorisme,
en réalité rejoignaient une organisation terroriste qui avait pour but de commettre des crimes d'atteinte contre les personnes et de commettre des meurtres et des assassinats contre les Français. La preuve, hein, le califat, l'agenda terroriste, l'appel au djihad et les attentats majeurs. Et donc on a décidé du jour au lendemain de demander au juge d'instruction, on l'a obtenu, de criminaliser voilà, c'est ça. Tous ceux qui étaient poursuivis pour association de malfaiteurs. C'est-à-dire que tous ceux qui avaient vocation à passer devant le tribunal correctionnel de Paris pour association de malfaiteurs, dès lors qu'on pouvait démontrer qu'ils s'étaient battus dans les rangs militaires de Daesh à partir de début 2015, ils devenaient mis en examen au criminel et ils étaient justiciables de crimes et donc ils allaient être jugés par la cour d'assises spéciale de Paris. Et il y a eu une centaine de dossiers comme ça concernés. Et bien évidemment avec des décisions beaucoup plus sévères.
Et vous rappeliez effectivement ce moment, on sait ce qu'on faisait au moment du Bataclan à l'heure précise et le jour précis, comme on sait ce qu'on faisait effectivement le jour de l'attentat de Charlie. Et on peut le rappeler, hein, où est mort notamment Michel Renaud qui était de Clermont-Ferrand. Et je sais que dans la salle, certaines le connaissaient.
Le connaissaient, oui.
Rappeler son nom. Ensuite, maintenant... Continuons au travers de votre carrière. Vous parliez effectivement d'un de vos engagements en tant que magistrat. Là aussi, prévention, mise en place de dispositifs particuliers contre pour la lutte contre les violences faites aux femmes également. Vous l'avez abordé un petit peu tout à l'heure. Revenons sur ce dossier qui, dans votre fin de carrière, a été un dossier dans lequel vous vous êtes emparé de manière assez avec beaucoup d'engagement.
Oui, c'est un sujet, les violences faites aux femmes, moi, sur lequel j'ai été amené à faire un virage à 180 degrés. J'étais à l'époque procureur à Angers et un beau jour, le ministère de la Justice m'envoie dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. C'est un truc extrêmement impressionnant, hein, où il y a vraiment des centaines. Il doit y avoir peut-être 700 ou 800 personnes au moins, si ce n'est pas plus, avec plusieurs balcons. Et on me charge d'aller là-bas. J'étais procureur à Angers pour défendre la médiation pénale en matière de violence conjugale, devant un public essentiellement féministe. Donc j'y suis allé, j'ai rempli ma mission et je me suis fait éreinter avec des questions effectivement qui étaient pleines de bon sens et qui finalement consistaient à me demander mais comment on pouvait faire de la médiation dans des couples dans lesquels il y a une telle situation effectivement d'emprise et d'inégalité. Hein, où il y a effectivement véritablement souvent un rapport d'emprise et de domination de l'un sur l'autre. Alors effectivement, ça m'a fait beaucoup réfléchir, même si je la faisais avec quand même certaines garanties à Angers, et j'ai complètement revu ma copie, notamment le jour où je suis arrivé à Bobigny, et j'ai commencé par j'ai pris des instructions écrites pour interdire à mes collègues de faire de la médiation pénale en matière de violence conjugale, parce que j'estimais que le rapport d'inégalité qui existait au sein du couple n'était pas compatible avec les exigences d'une médiation en bonne et due forme. Voilà. Donc on a interdit purement et simplement. Ça a beaucoup plu aux associations féministes avec qui on a commencé à discuter. Et puis un beau jour, j'ai eu la visite d'une dame très bien qui s'appelle Ernestine René. Une sorte de papesse de la lutte contre les violences faites aux femmes qui est venue me voir. Et c'est ça qui est bien dans le parquet, vous voyez, c'est que le parquet, vous appliquez la politique pénale du garde des Sceaux, mais vous pouvez aussi nourrir cette politique pénale et prendre des initiatives. Donc elle vient nous voir et elle me propose de monter une expérimentation du téléphone grave danger. Tout le monde sait ce que c'est le téléphone grave danger, hein? Oui. Donc c'est un smartphone avec un bouton poussoir. Lorsque une victime de coup au sein du couple dépose plainte et qu'on impose à son mari la décohabitation, donc on lui impose de s'en aller pour protéger la victime et qu'il n'a pas le droit de réapprocher de son conjoint, ce téléphone est muni d'un bouton poussoir et la victime, si elle voit son mari s'approcher, va pouvoir appuyer sur ce bouton, on vérifie l'appel et la centrale d'appel va immédiatement aviser la police et la gendarmerie qui pourra intervenir. Donc, expérimentation de ce smartphone qui n'existe pas dans la loi, ni dans aucun décret. Et on n'a pas un sous-vaillant de l'État pour faire ça. Donc, on va construire ça pendant 3 ans avec Mme Ronet et le conseil général de Seine-Saint-Denis et le conseil régional d'Île-de-France, jusqu'à ce qu'on l'expérimente. On a nos premiers téléphones. Aujourd'hui, ils sont dans la loi. Il y en a plus de 5000 dont sont dotés tous les parquets français. Voilà. Mais ça, vous voyez, c'est un exemple des initiatives, et il y en a eu bien avant celles que j'avais prises, hein, par d'autres de mes collègues. C'est un exemple des initiatives qu'on peut prendre sur le terrain quand on est procureur de la République. Et ça, c'est effectivement extrêmement intéressant. Donc, on a fait ça, avec aujourd'hui quelque chose, effectivement, qui a été... qui est dans la loi, je le répète. Et puis, on a continué, effectivement, à essayer de travailler... en essayant effectivement de muscler les réponses pour essayer effectivement d'éviter ce parcours du combattant pour les femmes qui avaient le courage de venir déposer plainte, et puis muscler les réponses à l'égard des conjoints violents dès lors qu'on était face à des violences caractérisées ou réitérées, avec des politiques de placement systématiques en garde à vue des conjoints violents, hein, et des politiques aussi pour soit mettre les femmes à l'abri lorsqu'elles voulaient quitter le domicile, ou au contraire utiliser la garde à vue du conjoint violent pour l'obliger à s'en aller et sécuriser la victime dans le domicile conjugal. Et on a continué donc ce travail qu'on a pu lancer à Bobigny pendant presque 5 ans, et puis qu'on a continué bien évidemment à Paris avec des moyens alors là encore plus importants.
Ensuite, donc, nous arrivons dans les dernières périodes de votre carrière. On va le traiter en quelques minutes, et puis une question de plus, avec ensuite des questions de la salle, et puis vous pourrez retrouver tout le monde ensuite. Vous arrivez dans les strates les plus élevées, les degrés les plus hauts de la magistrature française, côté parquet, à la Cour de cassation, au poste donc de procureur, qui est un poste, alors vous êtes vraiment très très élevé, très très loin du terrain par définition, très très élevé, vous encadrez des équipes qui encadrent elles-mêmes, à un poste tellement élevé que lorsque vous prenez la parole dans les séances de rentrée, c'est une parole qui est quasiment politique, à tel point que le garde des Sceaux du moment en prend un peu ombrage. Il avait d'autres raisons aussi de prendre ombrage de propos qui pouvaient être les vôtres, le touchant personnellement. Et là, évidemment, vous abordez vos relations complexes, ouais, on va dire, ou en tout cas pas simples avec...
Alors c'est effectivement un poste qui est très particulier parce que c'est des fois ce que les gens ont du mal à comprendre par rapport à l'expression publique des chefs de la Cour de cassation. Alors c'est vrai qu'un magistrat, il est tenu à l'obligation de réserve et il ne doit pas tenir des propos qui pourraient venir permettre de suspecter son impartialité. Les chefs de la Cour de cassation, ils sont dans une position qui est un petit peu particulière parce qu'ils ne sont pas que chefs de la Cour de cassation. Alors bien sûr, ils sont premier président et procureur général, mais ils ne font pas que ça. Ils président le Conseil supérieur de la magistrature, donc le premier président s'occupe de la formation au siège, le procureur général de la formation parquet, le Conseil supérieur de la magistrature, c'est pas rien, hein. C'est l'organe constitutionnel qui vient assister le président de la République pour garantir l'indépendance de la justice. Donc c'est des fonctions qui sont quand même très... qui normalement font qu'on voilà, doit intervenir dès que l'indépendance de la justice est menacée.
Puis ils valident les nominations des magistrats.
Oui, qui valide les nominations des magistrats. Vous avez tout à fait raison. On préside aussi le conseil d'administration de l'École nationale de la magistrature. Donc on est aussi là pour la défendre quand elle est injustement attaquée. Mmh. Et puis enfin, le procureur général à la Cour de cassation, il a une responsabilité particulière qui aurait dû d'ailleurs disparaître, moi, quand j'étais arrivé en 2018, puisque le président de la République avait présenté un projet de réforme constitutionnelle pour supprimer la Cour de justice de la République. Mmh. On l'a peut-être un peu oublié. Projet qui a été torpillé et paralysé. Mmh. L'examen a été torpillé par l'affaire Benalla. Mmh. Hein, c'est comme ça. Comprennent qui pourra. Ouais. Donc, c'est des compétences. C'est comme ça. c'est des compétences, ouais, effectivement, qui n'en font pas. Je ne dis pas que les chefs de la Cour de cassation soient meilleurs que les autres, mais ils ont des compétences qui sont différentes des autres et qui les amènent effectivement à s'exprimer. Ça, c'est quelque chose qu'on voit depuis plus de 10 ans, chaque fois qu'ils estiment que l'indépendance de la justice est menacée. Voilà. Ouais. C'est effectivement ce que j'ai été amené à faire, moi, avec Madame Arens, notamment dans le cadre de cette tribune de juillet 2020, qu'on nous a beaucoup reproché, qu'on aurait aimé ne pas faire, hein, mais qu'en réalité on a faite parce qu'on était confronté à une situation de conflit d'intérêts du garde des Sceaux qui n'était pas traitée. C'est ça que j'essaie d'expliquer dans le livre. C'est un peu tragique ce dossier parce que il n'aurait en réalité jamais dû se produire s'il avait été traité correctement. Le conflit d'intérêts qui a été reconnu par la Cour de justice de la République dans son arrêt, qui a été rendu, qui est relaxé du M. Dupond-Moretti, ce conflit d'intérêts aurait dû être traité lorsqu'il entre au gouvernement, par le secrétariat général du gouvernement, par la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique, qui aurait dû, moi j'ai connu des présidents qui auraient fait autrement, qui aurait dû purement et simplement prendre une injonction et qui se serait traduite par, en réalité, une clarification des choses et un décret de déport qui aurait pu intervenir au mois de juillet. Il n'y avait aucun problème avec ça. Fin septembre, le conflit n'est toujours pas traité. C'est pour ça qu'on fait notre tribune avec la première présidente. C'est une façon d'en appeler à la conscience publique. Et quelque part, ça a fonctionné, puisque... trois semaines après, il y a le décret de déport. Mais il aurait dû intervenir bien avant. Ouais. Et il n'y aurait jamais eu d'affaire Dupond-Moretti. Ouais. Jamais.
Et à côté de ça, quelques pages auparavant, vous dites effectivement que vous avez travaillé sous un certain nombre de présidents de la République, trois, plusieurs premiers ministres de l'Intérieur, gardes des Sceaux, mais il n'y a jamais eu d'interaction entre votre travail et ces différents personnages de l'État.
Moi, effectivement, c'est quelque chose que je rappelle. Hein, j'oubliais la liste, il y a trois présidents, effectivement.
Trois présidents, oui. Cinq premiers ministres.
Cinq premiers ministres, quatre gardes des Sceaux et six ou sept ministres de l'Intérieur. Je n'ai jamais eu à contrer des tentatives d'interférence sur l'exercice de mes fonctions. Et d'ailleurs, c'est un hommage qu'il faut rendre aux politiques à cette époque. Je n'ai pas subi de pression sur la gestion des dossiers terroristes. Aucune.
Je terminerai par là, par cette question. Dans votre livre, vous décrivez assez précisément deux vêtements. À un moment donné, vous arrivez sur une scène d'attentat et un fonctionnaire de police vient vers vous. Vous venez d'arriver, on ne sait pas s'il y a encore des terroristes dans les parages. Il dit, monsieur le procureur, vous n'avez pas de gilet pare-balles, prenez le mien. Donc il vous donne son gilet pare-balles.
Oui.
Et après, ça va devenir une habitude de faire en sorte que les procureurs qui arrivent, enfin, le gens du parquet qui arrivent sur place aient un gilet pare-balles.
On n'en avait pas, on en a commandé après.
Voilà, c'est ça.
Oui, mais effectivement, c'est le soir du vendredi 13, quand j'ai compris ce qui se passait, ouais. Après l'attentat du Stade de France, et que j'ai compris qu'il y avait des assassinats, des mitraillages de terrasse, je ne suis pas resté chez moi, et je suis parti tout de suite avec mes officiers de sécurité sur les scènes de crime des terrasses. Donc quand j'arrive, en fait, il n'y a aucun enquêteur encore, il y a encore les pompiers qui s'affairent, le SAMU, et effectivement, les policiers des commissariats de quartier du 11e arrondissement. Donc effectivement, on ne sait pas trop, c'est des scènes de chaos, hein, en fait. Et effectivement, il y a un policier qui m'a vu, qui m'a dit, mais vous n'avez pas de gilet de pare-balles? J'ai dit, ben non. Il m'a dit, ben prenez le mien. Donc il a enlevé le sien et il me l'a donné. Et je l'ai porté effectivement toute la nuit.
Et on s'aperçoit effectivement à ce moment-là, tout le monde en a, sauf les gens du parquet.
On en a acheté après l'assaut de Saint-Denis.
Et ensuite.
Parce que les collègues qui étaient là, effectivement, qui étaient d'ailleurs souvent des... Le parquet est assez féminisé, la magistrature est très féminisée. Hein. Les collègues, hommes et femmes en majorité, ont eu en réalité très très peur.
Et donc le deuxième vêtement que vous décrivez au moins 3-4 reprises, et là, question que je vais poser, vous apprenez aussi, vous êtes avec votre épouse en voiture et vous allez faire la commande d'une des robes en fait de procureur. Vous allez prendre vos fonctions à Paris et vous allez chez Bosque. Alors pour ceux qui ne savent pas, Bosque, c'est un tailleur très connu en face du palais de justice, donc pas le nouveau, l'ancien, donc en centre-ville de Paris. Et c'est là où vont les magistrats et les professeurs d'université en fait pour avoir leur toge faite chez Bosque. On peut difficilement faire mieux. Et à ce moment-là, donc vous allez à ce rendez-vous et on vous prévient qu'il y a un attentat. Donc vous êtes obligé d'y aller. Première chose. À la fin, à la fin de votre livre, quand vous allez présenter votre discours devant Éric Dupond-Moretti, où le moment va être un petit peu compliqué, auparavant, vous décrivez avec une très grande précision, comme vous le faites toujours, votre costume avec l'hermine, la partie rouge, la partie noire, etc. Et deux ou trois fois... Bref, à plusieurs reprises, vous décrivez vraiment la robe du magistrat, avec la symbolique du noir, du rouge, de l'hermine derrière, en regrettant d'ailleurs qu'on tue ces pauvres animaux pour les réaliser. Mais qu'est-ce qui représente ce costume pour vous? Vous avez tant porté.
Mais justement, moi, ça m'a paru important. La Cour de cassation, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu des audiences solennelles sur Internet. On a des costumes très chamarrés. Hein, en réalité, qui sont très anciens, puisqu'ils avaient été abandonnés au moment de la Révolution française. et réinstauré avec l'arrivée de Napoléon. Donc qui a repris en réalité les costumes des parlements. Donc en fait, c'est un costume qui a plus de 220 ans. Voilà. Donc qui est chargé de symboles, et ça m'a paru intéressant de l'expliquer pour faire passer deux messages. D'abord, rappeler que si, quand on est magistrat, on porte une robe, c'est pas pour rien. Hein. La robe, c'est effectivement le signe de la fonction, c'est surtout le signe de la distance que doit avoir le magistrat par rapport au litige dont il est saisi et à la violence du litige dont il est saisi. Hein. C'est une façon effectivement de mettre tout ça à distance pour effectivement se cantonner dans un exercice le plus serein et le plus impartial possible. C'est les couleurs. Hein. Bon, le noir, eh ben, c'est les juges de base. Le rouge, ben, c'est effectivement la marque des cours suprêmes et de l'impérium dans sa plus haute signification. Hein. Y a trois couches à la Cour de cassation, donc il fait très chaud pendant l'été. Mais c'est aussi ce message, il avait aussi une deuxième finalité, c'était de dire que, bon, ce costume ayant 220 ans, je sais qu'il y a un certain nombre de collègues à la Cour qui partagent mon approche des choses, on pourrait peut-être, tout en gardant la symbolique du rouge et du noir, le faire un peu évoluer, à la fois pour des raisons de simplicité, parce que souvent on le trouve effectivement trop vieux et véritablement suranné, et pas véritablement très contemporain, et puis surtout pas très écologique. Hein. On a un grand manteau qui est fait avec de l'écureuil Petit Gris de Russie. Donc, c'est pas glorieux, hein. Voilà. Et les maisons et les tailleurs à qui vous demandez du synthétique, moi c'est ce que j'ai fait quand je suis allé chez Bosch, ils n'en ont pas. Donc vous êtes obligé d'avoir votre pauvre écureuil de Russie, je ne sais pas combien il en faut. En plus, il est peut-être radioactif. Hein.
Ça, vous pouvez plaider dans la nuit, plaider dans le noir. Comme ça. Requérir dans le
voilà.
Monde, pardon.
Donc ouais. Ça m'a paru intéressant d'expliquer effectivement toute cette symbolique, parce que c'est des réflexions qui reviennent souvent quand on voit les réactions des gens qui regardent sur les réseaux sociaux, qui regardent les audiences de la Cour. Effectivement, c'est assez rigolo de voir que on leur dit, mais écoutez, franchement, vous ne pourriez pas évoluer un peu. Mais bon, il faut sûrement évoluer. Mais je suis attaché aussi au maintien des symboles, parce que je pense que c'est important.
Voilà. Merci infiniment, François Molins. Oui, vous pouvez applaudir, bien sûr, voilà, droit, bien sûr. Voilà. Peut-être qu'est-ce quelques questions dans la salle. Voilà, il y en a une première là-bas. Je vais atteindre le coup.
Merci, monsieur le procureur de la République, pour la qualité de votre exposé. Je voulais intervenir sur le... Vous avez insisté sur la mission de communication dévolue au procureur de la République. Alors, nonobstant l'obligation de réserve, est-ce que la hiérarchie parquetière pèse sur cette communication et est-elle encadrée dans un appareil codificatoire ? Merci.
Alors, je pense qu'en général, je vais essayer de répondre sans mauvais esprit, même si j'en fais toujours un peu. En général, les chefs hiérarchiques aiment bien avoir la possibilité de lire ce que les procureurs vont dire avant qu'ils en donnent lecture. Voilà. Alors moi, c'est quelque chose que j'ai fait au début de ma carrière. Et puis après, quand j'étais procureur Paris, c'est quelque chose que je ne faisais plus. Parce que j'estimais qu'à partir du moment où le politique ne pouvait plus donner d'instruction dans les affaires individuelles, ben, il n'y avait pas de raison non plus de soumettre les éléments de langage que j'allais donner sur une enquête. Et j'étais vraiment sur une approche dans laquelle j'estimais qu'il fallait marquer son indépendance. Alors ça vous fera peut-être sourire, je poussais le bouchon tellement loin qu'on recevait des fonds d'écran bleus avec écrit dessus « Ministère de la Justice, Direction et Services Judiciaires » pour les avoir derrière soi quand on communiquait et qu'on était filmé par les télés. Moi, j'en avais un à Paris. Je n'ai jamais voulu l'utiliser. Parce que j'estimais qu'à partir du moment où je communiquais comme procureur de Paris, j'avais pas à avoir le logo du ministère derrière moi, puisque le ministère ne pouvait pas me donner instruction. Donc je m'étais débrouillé avec un peu d'argent pour commander un fond bleu sans aucune inscription. Et mes éléments de langage, je les envoyais en réalité 5 minutes avant de les prononcer, directement au procureur général et au garde des Sceaux, pour qu'ils puissent les lire Mais par contre, je les envoyais tellement tôt avant qu'en réalité, ils ne pouvaient pas me demander de modifier quoi que ce soit. Voilà. Donc j'ai toujours fait ça pendant 7 ans. Mais c'est vrai que la fonction de procureur de Paris, à l'époque, autorisait peut-être ce genre de choses. Et puis je vous dirais aussi, plus prosaïquement, que l'exercice était tellement compliqué qu'on aurait pu, on aurait de toute façon pas pu, même si on avait voulu le faire, les envoyer une demi-heure ou une heure avant. Parce que c'était beaucoup trop compliqué. Et on aurait fait attendre nos concitoyens. Voilà. Mais dans le même temps, on avait un politique qui était très respectueux, puisque moi je garde un très bon souvenir de cette époque. Monsieur Cazeneuve, qui était ministre de l'Intérieur, m'envoyait, quand il faisait des conférences de presse, ses éléments de langage avant, pour que je puisse les lire. Et il m'est arrivé 2 fois de lui dire « Non, monsieur le ministre, ça vous pouvez pas le dire. C'est à moi de le dire. » Et il m'a écouté, il l'a enlevé. Donc il y avait aussi, à ce moment-là, quelque chose que j'ai jamais trop retrouvé après, mais qui, effectivement, était vraiment un climat de total respect mutuel de l'office des uns et des autres.
Vous avez évoqué à plusieurs reprises le crime organisé dans votre exposé. Est-ce que le crime organisé est synonyme de mafia ? Et si oui, pourquoi n'y a-t-il pas de pôle anti-mafia en France ?
Alors, en fait, il n'y a pas un pôle anti-mafia comme en Italie, mais vous avez en France... Alors, le crime organisé, bon, ça peut être mafieux, mais la mafia, c'est quelque chose de très particulier. Mais vous avez des organisations criminelles très, très nocives qui sont pas mafia, mais qui sont au moins autant dangereuses que la mafia. Donc on n'a pas, en France comme en Italie, des pôles mafia. Pour autant, on a une organisation particulière depuis une loi de 2004, hein, avec des juridictions interrégionales spécialisées qui ont pour vocation de traiter le crime organisé. Il y en a 8 en France. Paris, Lille, Lyon, Bordeaux, Marseille, Lyon, Fort-de-France... Et puis, mais je crois que... Et Rennes, voilà. Et elles sont chapeautées depuis maintenant une loi de mars 2019 par une juridiction nationale qu'on appelle la JUNALCO, la juridiction nationale de lutte contre le crime organisé. Donc vous avez aujourd'hui effectivement un dispositif qui porte pas ce nom-là, mais qui est analogue. Par contre... On n'a pas un système aussi efficient que les Italiens. Les Italiens ont un fichier qui permet à tous les juges spécialisés crimes organisés de partager tous leurs dossiers. Nous, en France, on demande ça depuis 20 ans et on ne l'a toujours pas. Voilà.
J'avais une question par rapport, tout à l'heure vous avez parlé avec, après les attentats, il y a eu donc ce que vous appelez des rétextes, c'est-à-dire ouais. Des retours sur expérience, c'est-à-dire que la justice française est aussi belge, du coup j'imagine s'est formée par rapport comment traiter ces affaires, et je pense notamment aux attentats qu'il y a eu à Moscou, et ouais. Je pense prochainement ceux qui vont y avoir et ce qui se passe en Palestine, est-ce que la justice française a... dans un esprit de coopération, former, partager, aider les justices de nos amis, par exemple européens. Je pense par exemple à l'Espagne qui a été touchée dans le passé, aux Anglais aussi, ou par exemple à nos voisins allemands qui me paraissent aussi vulnérables. Est-ce qu'on a eu ces rétextes, est-ce qu'on les a partagés avec tous nos alliés, entre guillemets ?
Alors, oui et non. Ça s'est fait de façon plus thématique. En général, en matière de terrorisme, les États sont très jaloux de la façon dont, avec laquelle ils vont traiter les attentats. Donc, ils acceptent mal de recevoir des leçons d'État voisin. Il y a quand même eu des avancées. Moi, je pense notamment sur un mode thématique. Moi, j'avais participé à un colloque, par exemple, sur la médecine de guerre qui avait été organisé à Paris, à l'hôpital... C'était pas Percy, c'était l'autre. Je sais plus comment il s'appelle, j'ai un trou de mémoire. Un colloque franco-allemand, Béguin. Un colloque franco-allemand sur un médecine de guerre. Bon, vous voyez, par exemple. Alors, par contre, on a eu un rôle beaucoup moins visible, mais peut-être encore plus important que ce que vous évoquez, c'est que le système français, à travers le droit français et la législation française antiterroriste, est dans une position, entre guillemets, d'avant-garde par rapport à la plupart des pays au monde, et notamment en Europe. Et où on a souvent, j'allais dire, précédé les avancées qui étaient poussées par l'Union européenne. On a souvent été très précurseurs. à travers à la fois les infractions dont on disposait, les façons de travailler et les moyens de procédure qu'on utilisait. On a souvent été en avance par rapport aux autres pays. Donc la France peut, moi je pense, être considérée un petit peu comme un modèle en matière de dispositifs législatifs répressifs antiterroristes.
Bien, bien écoutez, merci beaucoup François Molins, merci infiniment. Voilà, il y a une petite minute d'installation et vous pourrez retrouver François Molins pour des échanges plus singuliers. Merci à toutes et à tous.